Didier Decoing, lui-même ancien lauréat du prix. Alors avant de vous poser quelques questions à l'un et à l'autre, je m'efface devant vous, Monsieur le Président. Est-ce que vous pourriez nous présenter la plus secrète mémoire des hommes et nous dire ce qui a séduit votre jury ? Qu'est-ce qui a conquis votre jury ?
Ah, c'est une sacrée question parce que on en a tellement parlé entre nous. C'est, je crois, Tahar Benjelloun qui a été... Non, c'est Camille Laurence qui nous a signalé cet été l'existence du livre de Mohamed. On ne savait pas qui il était. Alors, quelques-uns d'entre nous, les curieux, se sont précipités pour essayer de lire ce livre. Et on a eu une première réaction de Tahar Benjelloun qui a hurlé « C'est génial !» Alors, on s'est dit « On va le lire aussi ». On l'a lu aussi et on a commencé à échanger nos points de vue sur ce livre. Et la première chose qui nous a frappé, c'est l'extraordinaire richesse. Je vais vous donner une idée de l'impression que ça nous a faite. Quand on est enfant et qu'on lit l'île au trésor, on imagine le trésor du pirate dans un beau coffre, hein, sculpté, etc. Et on imagine l'enfant qui ouvre le couvercle du coffre et qui voit à l'intérieur profusion d'émeraudes, de diamants. C'est ça. C'est un livre trésor. Alors, c'est un livre qui parle de littérature, c'est vrai. C'est la recherche d'une forme de trésor. Hein. C'est une quête, une enquête, une poursuite, enfin, tout ce que vous voulez. Mais l'arrivée, c'est quand même chercher quelque chose d'éblouissant. Et ce grand homme, parce qu'il est grand aussi par la taille, ce grand homme a le talent de faire briller ce qu'il touche. Alors, il parle de beaucoup de choses dans ce livre. C'est un livre protéiforme. Mais par exemple, quand il parle de l'amour, il en parle d'une façon brûlante, à l'africaine, j'allais dire, et qui donne envie à n'importe quel impuissant de faire l'amour. C'est formidable, comme il le raconte. Quand il parle de la littérature, il faudrait être manchot pour pas réussir à tenir un stylo ou un crayon et pour écrire quelque chose. Enfin, c'est un passionné, Mohamed est un passionné. Et c'est ce qui est beau aussi dans la littérature, qu'elle a tendance à perdre un petit peu, je trouve, ces dernières décennies, c'est la passion. On ne peut pas lire si on n'est pas passionné par le livre qu'on lit, on ne peut pas écrire si on n'est pas passionné par le livre qu'on est en train d'écrire, et lui nous communique cette passion. Si vous allez tous, naturellement, si ce n'est déjà fait, ouvrir ce livre et le lire, mais vous allez voir, vous allez être pris. Vous allez être emporté comme par une espèce de grand fleuve tempétueux, mais c'est formidable de se laisser emporter. On ne se noie pas, hein. on flotte dans le bonheur. Et voilà, ça a été un grand enthousiasme pour nous. La meilleure preuve, c'est que dès le premier tour, il a obtenu 6 voix, c'est-à-dire la majorité absolue. C'est rare, à peu de choses près, il avait l'unanimité, mais ceux qui n'ont pas voté pour lui voulaient donner un coup de chapeau à d'autres. Parce qu'après, quand on arrive, mais bon, t'es dingue, t'as pas voté pour Mohamed ? Ben oui, mais je pensais pas que ça irait si vite. Alors je voulais saluer au passage X ou Y, etc. Mais j'aurais voté pour lui au deuxième ou au troisième tour. Quant à moi, ma voix de président compte double à partir du 14e tour. Alors j'étais tranquille, merci Mohamed. Dès le premier tour, vous avez emporté le morceau.
Alors vous, Mohamed M. Bogarsar, quand vous étiez aspirant écrivain puis jeune auteur, que signifiait pour vous le prix Goncourt ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait rêver ou qui vous paraissait quelque chose d'inatteignable ?
Alors bonjour et merci. Merci Président pour toutes ces paroles extrêmement belles et bon, sans doute trop... Qui vont au-delà, je pense, qui sont...
Elles vont pas au-delà de ma pensée, déjà, je vous jure.
Voilà, merci beaucoup. Quand j'étais aspirant, quand je n'avais encore rien écrit, je lisais évidemment des prix Goncourt, j'en ai lu un certain nombre. Et ce qui m'a toujours fasciné, évidemment, à l'époque, je me disais, bon... Je n'avais aucune ambition d'écriture. Je les lisais parce que j'aimais lire. Et je me suis toujours dit que c'est quand même un sacré palmarès. C'est un prix dont le prestige, la valeur, le cachet viennent aussi d'une lignée de grands textes qui, depuis plus d'un siècle, font vraiment l'histoire de la littérature, non seulement française, mais francophone, mais mondiale. Et c'est extrêmement beau, ça. Je pense que le premier prix Goncourt que j'ai lu, ce n'était pas Batwala, parce que j'ai lu un peu après, mais je pense que c'était La Condition humaine. Je pense que c'était vraiment le tout premier dans mes souvenirs. J'ai dû lire ce texte en seconde ou en première, parce que le titre m'intriguait, La Condition humaine. C'est à la fois tellement simple et tellement... voilà. Et donc j'avais envie de lire ça. Et pour moi, c'était ça, le prix Goncourt. C'était de grands textes qui faisaient l'histoire, qui faisaient partie de l'histoire la plus glorieuse possible de la littérature écrite en français et qui rayonnait à travers le monde. Et bien évidemment, aujourd'hui, voir mon livre s'inscrire à la suite de tous ces grands textes-là est quelque chose... voilà, une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé à l'époque, et jusqu'à très récemment, je n'aurais jamais pensé que ce fût possible. Mais ça me rend d'autant plus heureux et touché. Et la seule idée de me dire, bon, d'ici, enfin, pour le reste de l'histoire, on dira 2021, c'est la plus secrète mémoire des hommes, mais quelque chose d'assez vertigineux et fou. Et voilà, je pense que je ne me rends pas encore compte totalement de la portée que ça a. Voilà. Mais en tout cas, je voudrais remercier l'Académie pour ce geste-là qui dépasse la seule question du livre. Bon, on y reviendra sans doute.
Alors, vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous avez 31 ans. Et vous, Didier Decoing, vous aviez obtenu le prix Goncourt, si je ne dis pas de bêtises, en 77 pour John L'Enfer, alors que vous aviez 32 ans. Donc quasiment le même âge. Est-ce que ça avait été un tremplin ou est-ce que ça avait été difficile d'écrire après? Et quel conseil pourriez-vous donner à Mohamed Mbougarsar qui a quasiment l'âge que vous aviez à l'époque?
Alors moi, c'est une chose dont je rêvais tellement que ça a été plus qu'un tremplin. Ça a été la petite clé que j'attendais pour ouvrir un certain nombre de portes. La curiosité du prix Goncourt, il est théoriquement annoncé à 13h. Alors là, ça a été à 12h45, mais enfin, je ne suis pas dépendu un quart d'heure. À 13h, donc à 12h59, c'était mon cas en tout cas, vous êtes encore un auteur à peu près inconnu du public. À 13h01, vous êtes devenu une vedette nationale. Et passer de l'anonymat à la célébrité en une minute, c'est vrai que c'est une sensation étrange. Elle est très secouante, ça vous bouscule. Mais en même temps, si vous étiez pas s'y attendre, parce que on peut jamais être sûr de qu'on va l'avoir, mais simplement en avoir rêvé. Et en avoir rêvé en disant, j'en rêve parce que si j'ai le prix Goncourt, je pourrais faire. Je vais vous donner un exemple précis. Moi, j'avais follement envie, mon père ayant été cinéaste, de diriger un film, d'être réalisateur d'un film. J'avais essayé, j'avais fait des propositions en passant par le Centre national du cinéma, etc. Et on m'avait répondu à chaque fois, et je vous jure que la phrase est vraie, vous ferez votre premier film quand vous aurez fait votre premier film. Ça m'avait paru un peu abscon comme réponse. Je l'avais tourné dans tous les sens, je n'ai pas trouvé vraiment ce qu'elle voulait dire. Sinon, qu'on me dise, non, c'est pas, vous ne ferez pas votre premier film. En tout cas, pas maintenant. Et donc, quand j'ai eu le Goncourt, très peu de jours après, je suis allé voir les responsables d'une grande chaîne de télévision en disant « je voudrais faire un film ». Au lieu de me dire « faites d'abord un film et puis on verra si vous savez faire un film », ils m'ont dit « c'est marrant, ça a un prix Goncourt qui veut dire moteur et action ». Ça c'est amusant, c'est une bonne... Eh ben oui, d'accord. Et donc j'ai pu faire... Je ne vous dis pas qu'il était bon. Hein. D'ailleurs, j'en ai pratiquement pas fait après. Mais on peut faire ce genre de choses. Je voulais monter une pièce de théâtre. Il paraissait que les pièces de théâtre, les directeurs ne lisaient pas les manuscrits. Mais quand vous êtes pris Goncourt, quasiment on vient vous supplier, est-ce que vous n'auriez pas le manuscrit d'une pièce de théâtre chez vous, dans un fond de tiroir? Je voulais écrire des nouvelles. La nouvelle, c'est un genre qui, en France, ne fonctionne pas très bien, à tort d'ailleurs, parce que c'est une chose merveilleuse, mais enfin bon, c'est comme ça. Là, tout d'un coup, parce que j'avais le prix Goncourt, deux, trois éditeurs m'ont demandé si je ne voulais pas écrire un recueil de nouvelles. Et j'ai écrit un livre que j'aime beaucoup, qui est une longue nouvelle, ou un très court roman, si vous voulez, mais qui entre dans la catégorie de ces textes courts. Voilà, j'avais des choses que je voulais réaliser. Et ce que je voudrais donner comme... Il y a deux conseils que je voudrais donner à un jeune lauréat du Goncourt. Le premier conseil, c'est j'espère que vous avez des envies. d'autres envies que de savourer votre prix Goncourt. J'espère que vous avez... Mais je sais pas, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous avez quelques jours de grâce où les dieux sont là. Dites Mohamed, ce que vous voulez. Alors profitez-en. La deuxième chose qui est importante, c'est attention. Mais vous, je sais que comme c'est pas votre premier livre, ça risque pas de vous arriver. Mais il y a beaucoup, je connais un certain nombre de lauréats du Goncourt qui, à partir du moment où ils ont eu cette bande prestigieuse rouge autour de leur livre, se sont dit, je suis devenu un immense écrivain. Non, vous avez écrit un livre immense. L'écrivain, c'est une association de plusieurs livres. C'était comme les chanteurs, si vous voulez, qui ont une chanson fabuleuse, ils font un tube. Ils ont tout d'un coup, je sais pas, des millions d'auditeurs et ils disent, je suis devenu un grand chanteur. Non, vous avez chanté une très bonne chanson. Et c'est pas du tout la même chose. Donc ça demande à la fois, quand on est lauréat du Goncourt, beaucoup d'orgueil ou disons d'ambition pour des envies qu'on peut avoir et une vraie réelle modestie en se disant, c'est mon livre qui est couronné, pas moi. Ah, bien sûr, vous êtes derrière votre livre, c'est votre bébé. Hein, il a votre chair, votre sang, vos chromosomes. Mais c'est lui qui a la bande rouge. Si vous voulez vous en mettre une autour du fond, vous pouvez, Mohamed. Personne ne vous en tiendra rigueur. C'est une des choses qu'on peut faire quand on est pris Goncourt. Voilà, c'est ces choses-là. Et puis la troisième chose, elle est pas aussi importante, mais elle est rigolote. J'étais aux éditions du Seuil à l'époque et il y avait une responsable de la comptabilité qui s'appelait Mademoiselle Corbeau. Et Mademoiselle Corbeau était une femme tout à fait charmante. Elle était souvent habillée en noir, d'ailleurs, comme un corbeau. Et la première chose qu'elle m'a dite, merci pour le Seuil, on est content que vous ayez le concours. Faites attention, hein, il y a des impôts. Elle avait raison. Parce que vous avez gagné beaucoup d'argent. Et les impôts sont là, qui disent, une nouvelle proie. Donc il ne faut pas acheter tout de suite la Maserati, ou la Tecla, attendez un petit
c'est,
peu.
C'est trop tard, c'est déjà trop tard.
Elle s'est déjà achetée.
Alors, oui, alors justement, quelle est votre première réaction maintenant? Est-ce que c'est justement une forme d'angoisse ou une forme de libération, ce prix?
De l'angoisse, non. La libération, elle est relative. Parce que je ne veux pas non plus tomber dans ce sentiment-là de me dire c'est fait. Parce que finalement, rien n'est fait en réalité. Il y a encore, j'espère, des choses à faire. Peut-être que la libération viendrait du fait que je n'aurais peut-être plus le Goncourt dans mon esprit. Mais la réalité, c'est que je ne l'ai jamais vu dans mon esprit. Donc, de quoi suis-je vraiment libéré? Je ne sais pas exactement. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le Goncourt qui m'angoisse. Ce n'est pas d'avoir écrit un livre qui a eu le Goncourt qui m'angoisse. Je pense que profondément, j'ai des angoisses qui demeurent, mais qui sont liées à ce que j'ai envie d'écrire et au fait de me dire que je ne suis pas certain du tout que d'en avoir les moyens. Mais ça m'a suivi depuis mon premier livre. C'est quelque chose qui est là depuis mon premier livre et qui n'a pas bougé. Et de ce point de vue-là, je pense que le Goncourt n'a rien changé, en tout cas dans l'angoisse intérieure que j'ai devant le travail à faire, devant l'œuvre à écrire. Ça n'a pas... Le Goncourt peut beaucoup de choses, ouvrir beaucoup de portes, mais je pense que devant cette angoisse-là, il ne peut rien, et tant mieux, c'est vrai. D'une certaine manière. Que ça ne bouge pas. Mais il est vrai que ça va peut-être faciliter un certain nombre de choses, ça va régler beaucoup de problèmes très concrets, matériellement, ça je ne peux pas le nier, mais je crois que ça donne aussi beaucoup plus d'exigence envers soi. Pour être tout à fait sincère, honnête, je me suis dit, bon, tu as un livre qui a obtenu un prix, tu ne peux pas te permettre d'écrire quelque chose qui soit en deçà, littérairement. Donc ça crée ça aussi. Pas une pression folle, mais simplement une idée qui est, il faut maintenant maintenir une forme d'homogénéité dans le travail, dans ce que tu tentes de faire, et ne pas te disperser, parce que c'est une tentation aussi, je pense, de faire comme ça des choses, parce que tout d'un coup, c'est... mais garder une sorte de, voilà, de régularité, de cohérence dans ce qu'on tente de faire, d'ambition, d'exigence. Mais c'est que je pense qu'en littérature, il y a un point très, 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 très mince, mais qui existe vraiment, où l'ambition et l'humilité signifient tout à fait la même chose quand on est en train d'écrire. C'est exactement la même chose entre être ambitieux et être très humble. En littérature, c'est au même endroit que ça se joue. Et je le ressens plus fortement après le prix.
Alors, on n'a pas encore raconté de quoi parler votre roman, donc je me permets de le faire brièvement. Donc vous mettez en scène un double romanesque, jeune écrivain africain qui vit à Paris et qui enquête sur un mystérieux T.C. Eliman, auteur en 1938 du Labyrinthe de l'Inhumain, qui à l'époque avait été encensé, puis déchu, et l'auteur disparaît mystérieusement. Et donc il y a une enquête, 70 ans après, autour de cet écrivain. Vous ne faites pas mystère que pour créer ce Eliman, vous vous êtes inspiré de Yambo Wologem, qui avait reçu le prix Renaudot en 1968 pour le devoir de violence, qui à l'époque avait été encensé, puis accusé de plagiat, et qui a été oublié. Alors il paraît que vous aviez obtenu, avant d'obtenir le Goncourt, le prix de la Fondation Lagardère en 2018. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce prix, c'est une bourse qui est ouverte aux jeunes écrivains de moins de 30 ans, et on doit présenter un projet. Et à l'époque, votre projet s'appelait le Mystère Wologem. Donc je me demandais si vous aviez une première version qui était vraiment sur Wologem, et comment après toute la fiction avait complètement réinventé cette histoire.
Alors oui, au départ, quand j'ai présenté ce projet pour la Fondation Lagardère, ça s'intitulait Le Mystère Wologem, parce que j'avais rendu le dossier très tard. Donc plutôt que de me creuser l'esprit pour trouver autre chose, je l'avais intitulé Le Mystère Wologem, assez banalement, tout simplement parce que à l'époque déjà, il y avait la figure de Wologem derrière, mais je savais déjà dès cette époque-là que ce n'était pas la vie de Wologem stricto sensu que je voulais écrire, vraiment. Donc il y avait cette figure, il y avait une silhouette réelle, il y avait une histoire historiquement vérifiable, réelle, mais je savais que ça finirait en fiction, je le savais dès le départ. Mais c'est déjà une indication donnée aussi pour rappeler, pour faire connaître à ce jury-là, la Wologem. Quand j'en ai parlé, et pourtant je sais que dans le jury il y avait des personnes très pointues en connaissance littéraire, en connaissance d'histoire littéraire, très peu de gens ont réagi au nom de Wologem. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a été complètement oublié, alors qu'il a eu un Renaudot et qu'il a ensuite eu une polémique. Mais bon, il y a tellement de polémiques littéraires en France retentissantes qu'on peut finir par en oublier un certain nombre. Wologem n'a pas fait tellement réagir, mais justement quand j'en parlais, j'ai vu tout de suite que ça a fasciné beaucoup de gens, et je crois que dès l'époque déjà certains membres de ce jury me disaient, mais en fait restez collés à Wologem, c'est son histoire qu'on veut connaître, c'est elle qui est intéressante, etc. Et moi je savais, en tout cas j'avais l'impression qu'il fallait plutôt aller dans la fiction et abandonner la figure réelle historique de Wologem, parce que celle-là appartient à une autre... c'est dans un autre terrain que ça se jouait. Et j'avais l'impression qu'en me limitant à Wologem, j'allais un tout petit peu réduire le champ des possibilités qu'offrait la fiction, et le champ simplement de mes questionnements que j'ai tenté de mettre dans le livre.
En exergue de La plus secrète mémoire des hommes, vous avez mis un passage des Détectives sauvages de Roberto Bolaño. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, rappelons que Bolaño est ce grand écrivain chilien qui est mort en 2003, qui est un auteur assez méconnu, mais qui pourtant est extrêmement influent, j'ai l'impression, sur votre génération d'écrivains. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette influence un peu souterraine qui irrigue pas mal la jeune génération ?
Oui, c'est un auteur... Qui est culte, et quand je dis culte, c'est que c'est un auteur qui semble confidentiel, c'est-à-dire en tout cas lu par très peu de gens, mais par des gens qui deviennent attachés de façon quasiment mystique à ce qu'il écrit. Et c'est quasiment ça que je ressens. Tous les lecteurs de Bolaño que je connais sont quasiment des fous avec des yeux grands ouverts, complètement, voilà. Et j'en fais sans doute partie. Et Bolaño, je pourrais en parler des heures et je ne voudrais pas là, mais je c'est un auteur, je pense, qui m'a libéré sur la question centrale tout de même de ce livre. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre la littérature au cœur d'un roman? Parce que c'est une chose qui s'est beaucoup faite à une certaine époque dans la littérature française, mais ça n'a pas tellement duré. C'est-à-dire, c'est lié à tout ce qu'on a appelé l'autotélisme, le fait que la littérature soit le but de la littérature, que ça tourne que la littérature tourne sur elle-même. Et c'était, je pense, tout ce qu'on n'a pas tellement aimé dans le nouveau roman, par exemple, c'est-à-dire l'idée qu'en réalité, la littérature ne parlait que d'elle-même et que ça tournait comme ça en rond et que c'était comme ça, c'était le langage, le but. Et ça, je pense que ça a pu faire peur à toute une génération d'écrivains. Moi, je m'en suis méfié à une époque, mais quand j'ai lu Bolaño, j'ai vu qu'on pouvait parler de la littérature dans un roman pour précisément en mettant la vie au cœur, qu'il y ait une énergie, qu'il y ait quelque chose qui bouge, qu'il y ait quelque chose de vivant dans la langue, dans les aventures. Donc, pour cette seule raison, dans le fait de mettre la littérature au cœur du langage, Bolaño est un maître. Pour beaucoup, beaucoup d'autres choses, évidemment, mais j'invite tous les lecteurs et lectrices à aller le découvrir, parce que voilà, ce sera la meilleure manière.
Alors, quand vous avez reçu votre prix Goncourt chez Drouan, vous avez dit que vous espériez que derrière vous, ce prix mettrait dans la lumière toute une scène francophone. Dans votre livre, vous parlez un peu. Alors, dans votre livre, vous appelez ça le ghetto, qui est ce milieu des jeunes écrivains africains qui vivent à Paris. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette scène? Est-ce qu'il y a des maîtres méconnus, des écrivains que vous admirez qui...
Ah oui, il y en a qui sont plus ou moins connus, mais la plupart tout de même demeurent dans un certain anonymat. Alors que ce sont, je pense, de très grands écrivains. Certains noms sont connus quand on dit Léonore Amiano, quand on dit Alama Bankou, ce sont des noms qui sont connus, Scholastic Mukasonga, parce qu'ils ont été reconnus à une certaine échelle. Mais il y a derrière ces noms-là tout un contingent d'écrivains qui me semble absolument remarquable. Un de mes grands amis s'appelle Sami Tchak, il est très connu. Mon éditeur fait lui une salle. Bon, lui, je ne sais même pas s'il faut l'inclure dans le ghetto, parce que bon, il en est sorti parce qu'il est notamment connu parce qu'il est lui-même d'abord universitaire, philosophe, qu'il a écrit des œuvres extrêmement importantes, qu'il s'est occupé médiatiquement par le grand public. Il est connu parce qu'il a fait, il s'est occupé de la restitution des objets d'art africain. Donc son nom a été connu pour cette raison-là. Mais des gens comme Sami Tchak, comme Emle Boum, comme Blaise Ndala, comme Wilfried Sondé, enfin, il y a tout un Waberi, enfin, il y a tout un ensemble d'écrivains extrêmement intéressants. Et puis de ma génération, les Fiston Mwanza Mujila, les Sinzo Hanza, il y en a énormément qui sont là, qui ont des œuvres extrêmement puissantes, mais qui ne sont pas si plus reconnues que ça. Et cette scène-là est extrêmement vivante, et j'espère que l'un des effets de ce prix-là sera de faire rejaillir une lumière sur ces écrivains-là qui sont là, qui font très patiemment leur chemin et dont l'œuvre, un jour, je pense, sera... reconnu. Mais justement, le geste, le choix d'avoir couronné ce texte-là signifie aussi ça. C'est que je pense que systématiquement, ça va redonner une importance. On va se prêter attention un peu plus au texte de la littérature dite francophone, c'est-à-dire de tous les écrivains qui ont le français pour langue, en n'étant pas en France, en n'étant pas français, en ne vivant pas en France, mais qui l'utilisent pour écrire des œuvres. Et je pense que ça va se faire très naturellement. Et d'ailleurs, mon éditeur, Philippe Rey, me le disait, c'est que depuis l'annonce du prix, il reçoit des manuscrits, un peu plus de manuscrits tout d'un coup, d'auteurs africains qui lui envoient en lui disant, et c'est très drôle, je lui dis, mais quelles sont vos conditions pour que je sois publié? Enfin bon, voilà, il y a son petit mais, ça peut produire ça. Et ça a cette importance-là, et je le disais au président de Coin.
Et alors vous, justement, Didier de Coin, en tant que président du Goncourt, j'imagine que c'est important pour vous d'être ouvert à d'autres littératures. Enfin voilà, quel est votre...
Là, vous touchez à un point qui, pour moi, est essentiel. Ça fait des années qu'à l'intérieur de l'Académie, je mène non pas une guerre, parce que ça se passe bien et que j'ai des gens qui sont de mon avis, mais pour essayer de faire surgir cette littérature qui vit à côté de nous et qui n'a pas le droit d'entrer dans le salon. Enfin, ça me fait penser, si vous voulez, un peu à ces musées qui ont des fonds extraordinaires, ils ont des tableaux vraiment magnifiques, mais ils n'ont pas la place sur les cimaises où ils prétendent ne pas avoir la place, et donc ils les laissent dans les caves. Et de temps en temps, vous rencontrez un directeur de ces musées qui vous dit « Venez voir, j'ai un Cézanne que personne n'a vu, ou j'ai un X, Y, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et il vous montre un tableau qui est un quasi chef-d'œuvre. » Et bien c'est là, on a la même chose avec la littérature. Il y a des livres prodigieux, des auteurs absolument merveilleux qui vivent à côté de nous et qui n'ont pas accès, j'allais dire, au grand lectorat parce que on leur ouvre pas la porte. On leur ouvre pas la porte. C'est pas du tout par mépris, c'est par méconnaissance, parce qu'on ne sait pas qu'ils existent. Depuis que le livre est sorti, Le Secret de des Hommes, tout le monde dit mais c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, mais il existait. Je veux dire, si on n'avait pas mis le bandeau rouge dessus, est-ce que vous en seriez aperçu? C'était un chef-d'œuvre. J'imagine bien qu'un libraire ici ou là l'aurait repéré, mais ça n'aurait peut-être pas suffi à le faire connaître. Et effectivement, c'est Mohamed est une locomotive là, et j'espère que derrière lui, dans son sillage, vont s'engouffrer un certain nombre de trains avec tous ces wagons. Ils sont autant de livres exceptionnels, mais qu'on connaît pas et qu'on va découvrir. La même chose est arrivée au cinéma. De temps en temps, on dit « Oh, le cinéma pakistanais, formidable !» Personne ne le connaissait. C'est un exemple qui n'est pas le bon, parce que le cinéma pakistanais, c'est pas forcément la merveille des merveilles. Mais on a fait ça, on a découvert des cinémas. Comme on découvre actuellement, ça vous le savez, c'est plus proche de nous, la littérature policière, qui n'est pas du tout une sous-littérature. Certains thrillers sont admirables de construction, de psychologie des personnages. Là. Et on découvre les policiers qui viennent du froid. Hein, la littérature policière suédoise, norvégienne, finlandaise. Et voilà. Et ben là, on va découvrir la littérature subsaharienne. Et c'est grand. Hein, l'espace subsaharien, c'est grand. C'est très peuplé. Et il y a forcément des frères et des sœurs de Mohamed qui sont en attente simplement qu'on leur dise entrez. À nous, c'est ce qu'on a dit aussi en couronnant ce livre. On a envoyé ce signal. Je pense qu'il a été reçu. Venez. On vous veut. C'est pas qu'on est bien, on vous permet d'entrer. On vous veut. On vous veut parce que vous avez des choses à nous donner. Alors venez nous les donner.
Et donc vous imaginez, Mohamed Mbougarsar, que ça puisse aussi libérer peut-être de jeunes écrivains africains pour qui ça va montrer que c'est possible de publier en France et d'être reconnu?
Oui, je pense que ça peut produire cet effet-là. Je ne me pense pas du tout comme un libérateur. Ouais, c'est pas du tout cela. Il n'y aurait pas. Mais disons que par simple effet d'exemplarité ou de modèle, ça peut se dire voilà, c'est possible, ça se fait, il n'y a pas de raison que ça ne m'arrive pas, ça ne m'est pas interdit, voilà, c'est peut-être ça, parce qu'il peut y avoir des barrières tellement profondes qu'on se dit mais oui, en fait non, je ne pourrai jamais être par exemple publié par une maison d'édition qui plus est, donc par une maison d'édition qui est en France, qui plus est par une maison d'édition qui pourrait me permettre d'être remarqué par des prix, etc. Mais ça peut produire cet effet-là. Je pense que ce que ça va produire déjà, c'est peut-être des vocations aussi chez les jeunes, par exemple chez un jeune, je sais pas, un Sénégalais, un jeune Béninois, un jeune Togolais, qui a envie d'écrire, mais qui est parfois découragé, ou à qui on dit, mais oui, mais l'écriture, ça ne rapporte pas, et qu'est-ce que tu vas faire, etc. Ça peut produire, cet effet-là. Et voilà, je serais d'autant plus heureux que ça le produise que je ne l'aurais pas cherché et que parfois je ne le saurais même pas. Finalement, les vocations, les meilleures vocations sont d'autant plus belles qu'on les, voilà, elles se font dans le secret. Et que finalement, un jour, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, voilà, dans 30 ans, 40 ans, vous dit, voilà, c'est quand j'ai vu votre livre couronné que je me suis mis à écrire, ou que j'ai eu le courage d'écrire, ou que j'ai franchi le pas. Et beaucoup d'écrivains vous disent toujours qu'à un moment, ils ont rencontré un livre ou quelqu'un qui leur fait franchir une petite limite qui les bloquait ou les inhibait jusqu'à présent.
On parle de barrières. En France, il y a traditionnellement une barrière entre la littérature générale et le polar. Vous, Didier Decoing, on connaît votre passion pour les faits divers. Est-ce que maintenant que vous êtes président de l'Académie Goncourt, vous imaginez que dans les années à venir, un polar puisse recevoir le prix Goncourt ?
Oui. Oui, si c'est un grand texte, oui. Je pense d'une certaine manière que l'anomalie n'est pas loin du polar. C'est un mystère, le livre d'Hervé Le Tellier. Quant au livre de Mohamed, c'est aussi une enquête. Faut pas perdre sa durée. Alors, il n'y a pas d'assassinat. Mais c'est quand même une démarche policière quelque part. Et moi, je suis convaincu. Mais il faut que ce soit un grand texte. Je veux dire, c'est pas le côté fascinant, fabuleux de l'énigme ou du mystère ou des péripéties qui feront que le livre méritera d'avoir un grand prix littéraire, le nôtre ou un autre grand prix. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. Mais c'est vraiment la qualité littéraire. Et moi, j'avoue, j'ai lu des livres qui sont sur le plan du texte assez étonnants, des polars, oui, des thrillers et qui me semble mériter le maximum. Alors, ce qui serait le problème, c'est qu'ils sont souvent, pour l'instant, ils sont pas francophones. Ce sont des livres écrits par des auteurs étrangers, traduits en français. Et c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est des gens qui écrivent en français, qu'on cherche. Mais s'il y a un auteur qui a l'envie d'écrire un très grand polar, il ne faut pas hésiter.
Alors, il y a une question que je voulais vous poser, Didier Decoing, c'est que le journal des Frères Goncourt vient de ressortir en folio.
Oui.
Et à cette occasion, je lisais un article d'un journaliste qui disait que c'était assez drôle de se rappeler que les Frères Goncourt étaient quand même des gens qui passeraient aujourd'hui pour infréquentables.
Ils sont complètement infréquentables.
Anti-républicains, misogynes, etc., antisémites. Et ils ont donné leur nom au plus grand prix littéraire français. Que vous inspire ce paradoxe ?
C'est une des coquetteries de la littérature française. On leur a fait des enfants dans le dos tout le temps, nous. Ils ont créé leur Académie Goncourt qui, immédiatement, s'est empressée de casser leur... par exemple, ils avaient une haine profonde de la poésie. C'est même dans leur statut, le prix Goncourt doit être donné à un ouvrage en prose. Ils ne voulaient pas entendre parler de poésie. On s'est empressé, pas moi, mais mes prédécesseurs, de créer un Goncourt de la poésie. Ils ne doivent pas être très très contents de ça. Mais on s'expliquera quand on se retrouvera de l'autre côté du miroir. Je pense qu'ils auraient peut-être changé, ils seraient peut-être différents aujourd'hui. C'est des Goncourt, les frères Goncourt, Jules et Edmond, sont des frustrés. Ils ont essayé désespérément d'être connus comme romanciers. Ils n'ont pas écrit de mauvais romans. Certains sont même excellents, mais ils sont pas arrivés à passer à la postérité. On les a pas pris au sérieux. Il faut dire que ces deux frères qui se dandinaient dans tout Paris, qui faisaient des dîners à n'en plus finir, etc., ils n'avaient pas l'air sérieux. Un peu comme on pourrait penser que des écrivains de la francophonie sont pas sérieux, parce qu'ils ont une autre façon de vivre le est embêtant de cette mouche. Hein. On a une mouche qui nous persécute. En tout cas, Mohamed et moi, nous persécute. Elle doit aimer les écrivains. Peut-être qu'elle veut le Goncourt, d'ailleurs. Et ils ont été un peu comme ça des étrangers, des frères Goncourt. Jusqu'au moment où ils ont sorti leur journal, qui est une accumulation désopilante, et c'est très amusant à lire. Là, vous les avez en folio, ce sont uniquement des extraits, des bonnes feuilles, si je puis dire. Moi, j'ai la collection complète, il faut du temps pour lire tout ça. Mais c'est d'une méchanceté, d'une... Ils sont incroyablement cruels les uns envers les autres. Et en même temps, ils donnent de la littérature française et des écrivains de ce temps des images qui sont le pauvre Flaubert. Il en prend pour son grade. Flaubert, pour nous, c'est la statue du commandeur. Enfin bon. Et alors, les frères Goncourt disent Flaubert. Flaubert, vous savez, Flaubert, dit Saint-Jean, qui adore les petites filles, surtout quand elles sentent le pipi. C'était un déviant, Flaubert. Mais on le dit pas. Nous, pour nous, c'est l'immortel auteur de Madame Bovary. Mais en fait, il avait des fantasmes un peu particuliers qui seraient très, 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 très mal vus aujourd'hui. Il serait certainement inquiété, Flaubert, aujourd'hui.
Et alors vous, Mohamed Mbougarsa, vous avez lu un peu les frères Goncourt, parce que je vous vois rire.
Parce que c'était des langues de vipère absolument remarquables. Les frères Goncourt, il n'y a pas de mystère. Ils sont extrêmement méchants. Et d'autant plus méchants qu'ils, oui, ils sont frustrés, on les trouve un peu médiocres. C'est vrai que lorsqu'on ouvre Germinée Lacerte, bon, je suis pas certain que ce soit à la hauteur de ce qui se publie à ce moment-là, mais bon, il subsiste surtout par leur journal, comme beaucoup d'écrivains du 19e siècle. L'œuvre romanesque ne tient pas debout parce qu'il y a tout de même beaucoup de commandeurs. Mais le journal demeure parce que c'est le lieu d'une méchanceté, c'est le lieu d'une sorte de reportage dans le milieu littéraire. C'est une sorte de compte-rendu comme ça, quotidien, qui contient des horreurs absolues, mais qui a parfois qui a le mérite de rendre compte d'une époque, de l'esprit d'une époque, d'un cercle et des relations entre les écrivains de cette époque-là. Après, il faut bien se rendre compte qu'ils en prennent aussi plein la gueule, parce que quelqu'un comme comment il s'appelle, Barbé d'Orvi, les taillades aussi, mais aussi méchamment. Et c'est jouissif parfois, comme lecteur et comme simple, donc c'est-à-dire comme voyeur, de regarder ça. Ces grands fauves qui, à coup de formules assassines, se poignardent les uns les autres. Ça a quelque chose de très, très drôle. Je ne sais plus si les journaux d'écrivains continuent aujourd'hui. Je pense que ça a un peu disparu. Mais on verra peut-être que dans un siècle... des écrivains des journaux d'écrivains d'aujourd'hui seront publiés. Ce sera très marrant de voir ça.
Vous pourriez le faire, vous pourriez tenir un journal très méchant sur vos contemporains.
Non, mais ils avaient ils ont une chose tout à fait remarquable quand même, c'est la curiosité qu'ils avaient pour d'autres cultures. Ils ont été les premiers à dire que l'art, les objets, des vases, des choses comme ça, japonais et chinois, c'était beau. En France, à l'époque, on considérait que ça n'avait aucune importance, ces trucs-là. C'était exotique, point barre, les gens n'en avaient pas chez eux. Eux, ils ont amassé une collection extraordinaire de chinoiseries et de japonaiseries. Et quand ils sont morts, enfin surtout quand Edmond le dernier est mort, ces objets-là sont partis en salle des ventes à Drouot. La vente a duré 8 jours, tellement il y avait d'objets. Et ça a rapporté une fortune colossale sur laquelle l'Académie Goncourt vit encore aujourd'hui. Du produit, du placement, ces sommes ont été placées, produisent des bébés, etc. Et c'est de ça que nous vivons encore aujourd'hui, plus de 100 ans après. Ce qui prouve qu'ils avaient le coup d'œil pour les belles œuvres. Et quand vous regardez les objets qu'ils avaient, des paravents en lac absolument admirables, c'était ce goût pour d'autres cultures. Ils l'avaient malheureusement pas en littérature, mais ils l'avaient au moins sur ce domaine-là.
Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Si jamais quelqu'un a une question, une ou deux questions dans le public. Ah, allez-y, ouais.
Attendez, on vous apporte un micro.
Bonjour. Vous avez parlé de ce livre qui vous a donné le Goncourt, mais vous avez aussi une œuvre par ailleurs. Moi, je vous ai découvert en 2019 avec De Purs Hommes, qui est un roman qui m'a beaucoup marqué. Je m'attendais à pouvoir discuter avec vous un peu tranquillement, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas connu. Et puis, manque de peau pour moi, vous avez eu le Goncourt. Voilà, mais juste une question, peut-être, si vous pouvez dire en quelques mots ce que vous avez écrit par ailleurs, parce que voilà, votre œuvre ne se résume pas qu'au Goncourt que vous avez eu.
Oui, j'ai c'est mon quatrième roman, donc, et les trois premiers ont été publiés dans une maison qui s'appelle Présence Africaine, qui est très confidentielle. Ça fait partie justement de ces lieux de la francophonie absolument fondamentaux, mais qui ne sont pas très connus. Présence Africaine est la maison qui a porté le combat de la négritude. Voilà. Dans éditorialement, c'était le bras armé de la négritude. Donc, c'est une maison qui a été fondée par Alun Diop. Mais à côté d'Alun Diop, il y avait César, il y avait Senghor, il y avait Damas, il y avait De Pestre. Il y avait aussi des intellectuels français très connus de l'époque. Gide, Léris, Camus, Sartre, Ballandier, etc. Donc, c'est une grande maison d'édition qui a compté dans l'histoire des luttes anticoloniales, notamment, qui a publié de grands textes, et dont certains essayistes, dont certains penseurs sont des sommités, quoi. Quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, c'est une sommité, si on s'intéresse à cette histoire-là. Et donc j'ai publié mes deux premiers romans-là, Terre Sainte, en 2014, qui était un roman qui mettait en scène une ville assiégée par des djihadistes, dans un pays imaginaire qui rappelait un peu le Mali. C'est l'histoire d'un groupe de résistants qui tentait de s'opposer à une milice islamiste en publiant un journal, tout en se demandant si la résistance ne mettait pas en danger les honnêtes citoyens qui étaient là et qui étaient aussi sous le joug. Donc philosophiquement, il y avait un dilemme entre eux. Mon deuxième roman s'intitule Silence du cœur, cœur avec CH. Et Terre Sainte, ça s'écrit Terre, et puis Sainte, c'était C-E-I-N-T-E. Et Silence du cœur avec CH, donc c'était l'époque formaliste où je jouais avec des mots dans les titres. Et Silence du cœur était un roman sur l'accueil des réfugiés en Sicile, à la suite d'une expérience d'un séjour que j'avais fait en Sicile, à la suite duquel j'avais eu envie d'écrire quelque chose sur cette condition et cette situation-là. Puis j'ai écrit De Purs Hommes, donc là je suis passé chez Philippe Ray et Jim San, et dans De Purs Hommes, je tentais de réfléchir à la situation, à la condition des homosexuels au Sénégal, à partir d'un fait divers qui était l'exhumation sur une vidéo qui était virale au Sénégal à une époque, d'un corps. Et ce corps était, suppose-t-on, celui d'un homosexuel. Et on interdisait, enfin, une foule disait que cet homosexuel-là, supposé, ne devait pas reposer dans un cimetière. Il n'avait pas le droit de reposer dans un cimetière religieux. Donc je partais de ce fait divers-là pour aller, voilà, en réfléchissant, en me posant quelques questions sur ce qu'était cette condition et cette situation-là. Voilà.
Il y a peut-être le temps pour une dernière question rapide.
Moi, je voudrais dire que quelqu'un doit être très content aujourd'hui, c'est un coup de ouf, qui était président de la francophonie et qui organise à Dakar toujours des congrès tous les ans avec des comédiens, donc ils doivent être très fiers.
Oui, j'espère. Abdou Diouf est un Senghorien, d'une certaine manière. Donc, c'est quelqu'un qui accorde une grande importance à la culture d'où qu'elle vienne. Voilà.
Une toute dernière question. Alors, moi, j'ai une... Allez-y. Alors, attendez, le micro arrive.
Merci. Bonjour, moi je me demandais comment c'était passé, j'ai vu que c'était une coédition, Philippe Ray, Jim San, comment ça se passait, quel était votre rapport avec vos éditeurs, parce que maintenant vous allez peut-être être voulu par un peu tous les éditeurs de Paris, donc voilà, comment ça se passait, cette collaboration. Merci.
Alors, la coédition, c'est fait avec une histoire d'amitié, finalement. C'est arrivé comme cela. Parce qu'au départ, moi, je connaissais Félouine Sarr, qui a cofondé la maison Jim San au Sénégal. Donc, qui est là, il pourra en parler. Félouine Sarr a fait le lien avec Philippe Rey, qui était déjà son éditeur ici. Donc, c'est aussi une histoire de mise en abîme, d'une certaine manière. Je suis édité par quelqu'un qui est édité par quelqu'un, et on finit par se rassembler autour de cette aventure-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, c'est une histoire d'amitié et de lien aussi professionnel, mais d'amitié avant tout. Et c'est pour cela aussi que je suis très content, parce que c'est quelque chose que c'est une aventure que je vis avec des amis, et c'est extrêmement important pour moi, ça, ce sens-là. Et donc, bon, puisque ce sont des amis, ça répond, je pense, par la même occasion, à la question de la prédation éditoriale.
Alors, nous arrivons au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Alors, pour ceux qui n'aurait toujours pas compris, je rappelle le titre de votre livre, La plus secrète mémoire des hommes, paru chez Philippe Rey. Alors, hélas, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous avez vendu 600 livres depuis vendredi. Du coup, il n'y a plus un seul exemplaire en vente. Donc, vous ne pouvez plus dédicacer votre livre. Mais j'imagine que les réimpressions vont vite arriver et qu'on pourra se procurer votre livre très, très vite. Merci encore, Mohamed Mgarsa.
Merci beaucoup et merci à la Foire de Brive. C'est un très bon moment. Merci beaucoup. Merci.